RCF.
Il faut qu'ils grandissent et que je diminue. Ces paroles de Jean-Baptiste résument bien le programme de ceux et celles qui souhaitent caler leurs pas sur ceux du Christ. La vie chrétienne inclut ce paradoxe que c'est en s'abaissant que l'on grandit spirituellement, et je vous propose cette semaine une série d'entretiens sur l'humilité, un thème qui parcourt toute la tradition chrétienne depuis les pères du désert jusqu'aux écrits des grands saints qui ont jalonné l'histoire. Pour nous accompagner, frère Benoît Standart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes moine bénédictin de l'abbaye de Saint-André à Bruges. Vous vivez en ermitage depuis 2012 et vous signez chez Salvator un journal de l'humilité. Vous dites dès le début du livre que ce thème, il vous suit depuis votre plus jeune âge.
À ma propre surprise et sans arriver à comprendre, déjà à 16, 17, 18 ans, mes premiers petits essais d'écriture tournaient autour de ce thème et développaient des éléments de fascination pour cette humilité sans savoir pourquoi.
Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui?
L'an dernier, j'étais chez des amis et lui est psychologue et je revenais moi-même avec cette question en disant pourquoi, pourquoi? Et deux aspects se sont dégagés. Un premier qui est noble, qui est juste, qui est l'authenticité d'une recherche de ce qu'il y a de plus profond et de plus libérant dans la tradition chrétienne. L'autre était peut-être une stratégie en rejoignant l'humilité en face de ceux qui, de quelque manière, dominaient, pouvaient écraser. J'allais échapper à leur dominance ou oppression ou rejet. Et j'ai pu enlever cela de ma propre recherche en l'avouant que ça a joué également. Et il ne restait plus qu'à être humble et non plus à continuer à scruter toutes les littératures parallèles, ce qu'on avait dit et de ce qu'on avait pu, de façon toujours plus juste, ressaisir de ce mystère de l'humilité.
Qu'est-ce que l'humilité, frère Benoît Standart, en christianisme?
Ils ont déjà dans les tout premiers textes, que ce soit l'évangile de Matthieu, avec l'énoncé où Jésus fait son autoportrait, c'est assez exceptionnel, dans le chapitre 11 de Matthieu, il se présente, « Venez à moi, vous tous qui ployez sous les fardeaux, apprenez de moi, mettez-vous à mon école, et apprenez que je suis doux et humble de cœur. » Et on voit que c'est déjà présent donc dans cet évangile, comme c'est présent dans saint Paul. Chaque fois qu'il emploie ce terme humilité, ayez en vous les mêmes sentiments qui sont en Christ Jésus, et il développe le Christ qui, de condition divine, accepte de se vider, de s'humilier.
De s'abaisser.
Et de s'abaisser, de se vider, la kénose, qui va jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Ce qui veut dire aussi l'ignominie et la malédiction. C'est pourquoi. C'est pas donc en contradiction, mais c'est parce qu'il est allé avec cette qualité-là jusqu'au bout que Dieu l'a exalté au-delà de tout.
Donc nous aurons l'occasion de revenir sur ce modèle christique de l'humilité. Mais se faire petit, est-ce que c'est de l'ordre de la volonté ou de la grâce?
La fascination, la notion même d'humilité a rayonné en moi, ne relevait ni de l'effort, ni directement d'un état de grâce. Il est certain que devenir humble est un travail de synergie où je m'ouvre à Dieu de manière à ce qu'il puisse me conduire là où lui veut, et ça passe par la porte de l'humilité, du dépouillement, de l'effacement, de l'abandon. Mais dès qu'on est en humilité, on n'est plus dans l'antithèse, effort ou grâce. En humilité, tout est grâce. Et en humilité, tout est effort. On se donne constamment.
Non, mais je dis ça parce que dans le livre, vous citez le penseur allemand Max Scheler qui dit que plus quelqu'un s'efforce d'atteindre l'humilité, moins il y arrive.
Oui, c'est un garde-fou intéressant, un homme très très fin. C'est un juif converti au christianisme au début du XXe siècle. Et avec humour, avec ironie aussi, il dit « Si on veut coûte que coûte obtenir l'humilité, on est sûr de la rater. » Et néanmoins, le désir de l'humilité est un bon et un beau désir. Et donc, on doit sortir de l'exercice et la pratique de l'effort. Un confrère disait à propos de Jésus dans le texte de Philippiens, « Factus obedience », ça se trouve dans la règle de Saint-Benoît, « il a été fait obéissant ». Donc, l'humilité est quelque chose qu'on réalise dans la mesure même où on se laisse faire et agir et transformer par le Christ ou par Dieu, par la main de Dieu.
Frère Benoît Standart, vous dites que l'humilité, c'est d'abord un exercice de descente. Alors, on l'a entendu avec l'hymne aux Philippiens que vous avez rappelé il y a un instant. Se dépouiller de notre ego. Vous dites qu'il faut se dépouiller de notre instinct de conservation. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cet instinct de conservation?
Je ne sais pas si on doit s'en dépouiller, parce que je crois que ça ne réussit pas. Cet instinct est une force vitale, fondamentale, et essentiel aussi pour vivre. Si on me met le couteau sur la gorge, je vais réagir et démordre ou je vais essayer, disons, de faire valoir toute l'énergie dont je dispose pour que ce couteau ne m'atteigne pas en profondeur.
Et ça, c'est sain. C'est l'instinct qui nous
sauve. C'est l'instinct qui... C'est sain et ça y est. Mais... D'après les textes et d'après l'expérience de certains grands que j'ai rencontrés jusque dans ma propre communauté, l'humble n'est plus atteint par cette menace qui écraserait ou perforerait l'instinct vital de conservation. C'est comme s'il avait avalé, et au-delà de ce glaive avalé, il y a une liberté. Il y a une humilité, il y a une transparence, il y a une patience. On ne sait plus être mutilé. La peur de la castration n'a plus aucune emprise sur le sujet. Et certains le sont grâce à une épreuve, une maladie, ou grâce à une inimitié lancinante qui a duré et qui ont brusquement provoqué un déclic intérieur où on ne mise plus sur l'autodéfense, mais où on entre dans cette capacité d'intégrer tout et tous, même l'ennemi. C'est à partir de ce lieu-là que des paroles comme celle de Jésus, « Tu aimeras ton prochain » deviennent sensées. Celui qui volontairement, « Tu aimeras ton ennemi hein? » Aimer ses ennemis, justement un ennemi, c'est quelqu'un qui épuise ma bonne volonté. Et quand je n'ai plus rien à donner, à ce moment-là, je dois trouver cette chose que je n'ai plus qui va devenir l'amour des ennemis. Ce n'est donc pas de la morale, ce n'est donc pas non plus question d'effort, c'est quelque chose qui va juste au-delà des efforts.
Mais sur cet instinct de conservation, comment expliquer ça à un moment donné qu'au-delà de la survie nécessaire, on se sente attaqué ? Au point de vouloir s'élever, de vouloir être supérieur aux autres, alors au point de devenir orgueilleux, c'est parce qu'on ne s'est pas senti aimé, reçu, accepté, qu'on va surjouer sa propre personne?
Ça, c'est possible, je n'ai pas retrouvé ça, ni dans les textes, ni dans mon expérience.
Mais c'est peut-être la psychologie qui nous dit ça aussi.
Peut-être, c'est une psychologie que je n'ai pas fouillée, ni entretenue moi-même. Je crois que l'animal en nous réagit avec une grande force. Mais l'homme spirituel cesse d'appuyer sa vie spirituelle sur ce premier instinct. Et cette conversion, cette traversée de l'instinct arrive chez les uns, oui, chez les autres, jamais.
Et vous dites que ça peut arriver à cause d'un...
Des facteurs extérieurs et des facteurs intérieurs.
Un accident peut nous aider à traverser ça.
Il y a aussi quelqu'un qui, dès l'éducation de son enfance, a appris à ne jamais appuyer sa personnalité. Dans le livre, je cite très souvent le père Charles. J'ai étudié toute sa correspondance, même de son enfance. Charles van der Straten, un moine de mon monastère, qui est un tout grand humble, émouvant, comme s'il me révélait toutes les ressources de ce que l'humain, très humain, peut porter en lui. Et il était donc un pauvre, et d'une liberté, et d'une joie, et d'une capacité d'intégrer les autres, et même ses ennemis, comme je n'ai rarement vu.
Nous poursuivons avec vous demain. Merci à vous, frère Benoît Standart.